Origine Espagne, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Bienvenue sur Sud Radio, il est 20h.
Parlons vrai.
Tout de suite, un point sur l'information.
Bonsoir à tous. L'état d'urgence décrété en Nouvelle-Calédonie dès 20h ce soir, heure de Paris. Ce dispositif, déclenché 8 fois depuis 1955, permet des mesures de sécurité exceptionnelles, par exemple des restrictions à la liberté de circulation ou de réunion. Le décret qui organise l'état d'urgence est valable pour 12 jours. Le Premier ministre Gabriel Attal présidera ce soir une cellule de crise interministérielle pour piloter la mise en place du dispositif. Et puis le bilan sur place qui s'alourdit, on l'a appris plus tôt, un gendarme a succombé à ses blessures, portant à 4 le nombre de morts depuis le début des émeutes lundi. Interpol émet une notice rouge pour le fugitif Mohamed Amra, l'homme qui s'est évadé hier lors de l'attaque mortelle d'un fourgon dans l'Eure. 2 agents pénitentiaires ont perdu la vie. L'intersyndicale qui appelait à une journée prison morte reconduit le mouvement demain après avoir été reçu par le garde des Sceaux cet après-midi. À l'étranger, l'Ukraine a évacué environ 8000 personnes de la région de Kharkiv, conséquence de l'assaut lancé par l'armée russe pour tenter de percer les lignes de défense de Kiev. Le Kremlin qui met les bouchées doubles avant les livraisons d'armes et l'aide américaine de 61 milliards de dollars promis à l'Ukraine. Aller chez le médecin coûte un peu plus cher chez nous. Depuis ce matin, la participation forfaitaire lors d'une consultation médicale passe de 1 à 2 euros. Il s'agit du montant qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Les mineurs, certaines femmes enceintes ou encore les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État ne sont pas concernés. Les sports et du volley, l'équipe de France féminine s'est inclinée 3-0 aujourd'hui contre l'Allemagne en Ligue des Nations. C'était la première fois que les volleyeuses tricolores se qualifiaient à cette compétition. Et puis du cyclisme avec le Giro, Jonathan Milan s'attribue sa 2e victoire sur le Tour d'Italie. C'est aussi son 4e podium depuis le début de la compétition. À l'issue de cette 11e étape, Tadej Pogacar conserve son maillot rose. Le premier français, Romain Bardet, est lui à 6e. Bonne soirée.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Soyez les bienvenus sur Sud Radio, parlons vrai, avec les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono. Comme chaque soir, et tout de suite, on retrouve Jean-Jacques Bourdin et ses débatteurs.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Fourgon pénitentiaire attaqué dans l'Eure, vous avez vu les images, 2 agents pénitentiaires tués, à l'arme de guerre, d'autres blessés, 3 blessés, dont un grièvement. Les nouvelles sont plutôt rassurantes concernant cet agent-là. Pour parler du narcotrafic, parce que apparemment, même si nous n'avons pas la confirmation, apparemment, le détenu qui a été libéré du nom de Mohamed Amra, eh bien, peut-être aurait été à la tête d'un réseau de trafiquants de stupéfiants. Pour parler du narcotrafic, ce matin, nous avons 2 invités. Béatrice Brugère, qui est secrétaire générale Unité Magistrat et auteur de Justice, la colère qui monte, aux éditions de l'Observatoire. Et puis, maître Jérôme Goudard, avocat pénaliste. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Dites-moi, on n'a pas la confirmation qu'il s'agit d'un trafiquant. Ce détenu qui a été libéré de cette manière, que c'est un trafiquant, mais tout de même, il a été condamné à de multiples reprises, il est multirécidiviste. La manière dont il a été extrait de son fourgon montre bien que peut-être il s'agit d'une affaire de trafic de stupéfiants. Non, c'était un trafiquant. Béatrice Brugère.
Bon, l'enquête le dira évidemment ou le confirmera. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle nous le haut du spectre, c'est-à-dire de la criminalité organisée. Oui. Et c'est vrai que souvent la criminalité organisée, surtout quand on a ce profil-là, est souvent liée avec le trafic de stupéfiants. Moi, je connais pas, je sais simplement et ce qu'a dit le procureur de la République, enfin la procureure de la République, Madame Becchio, qui laisse penser en effet qu'on a affaire à quelqu'un de particulièrement dangereux. Puisqu'il était dans plusieurs affaires et qu'il avait d'autres affaires en cours, y compris sur Marseille, sur la GIRS de Marseille, qui est une juridiction interrégionale spécialisée.
Mais est-ce que la manière d'opérer, maître Goudard, la manière d'opérer de ceux qui sont allés libérer ce détenu pourrait prouver qu'il s'agit bien d'un trafiquant de drogue qu'on voulait sortir de de sa situation.
Oui, ce qui est assez déconcertant, c'est que ce détenu, oui. Personne ne le connaissait. Oui, personne ne le connaissait avant.
La justice le connaissait,
oui,
pardon.
Oui, mais ce que je veux dire, on nous parle aujourd'hui du grand banditisme, et vous avez raison, je veux dire, les méthodes oui. sont extrêmement, en tout cas semblent extrêmement élaborées, mais ce qui est assez
violente,
déconcertant,
et très,
mais d'une violence
et sans
absolue.
Sans hésitation aucune.
Mais bien sûr, on voit bien que ce sont des personnes qui sont manifestement de grands professionnels. Néanmoins, ce monsieur, personne ne le connaissait. Il n'était pas fiché au grand banditisme, il n'était pas DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement surveillé. Alors oui, effectivement, il est mis en examen dans un certain nombre de dossiers criminels, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, hier, personne ne le connaissait, ce monsieur.
Oui, alors, vous avez raison, pour le grand public, je ne suis pas sûre que pour les acteurs, personne ne le connaissait, puisqu'il était quand même plutôt bien connu de certains juges d'instruction. Mais en fait, c'est surtout que des profils comme ça, il y en a beaucoup.
Bien sûr.
C'est surtout ça, en fait, la question. C'est que, en détention, aujourd'hui, dans l'imaginaire, on met des personnes qui ont roulé trop vite, etc. Non, ce n'est pas vrai. En détention provisoire, aujourd'hui, on a des gens qui ont des profils de ce type-là, extrêmement violents. Et vous avez raison de le dire, la manière dont il a été, évadé, montre, on se croirait avec les cartels mexicains.
C'est-à-dire j'allais vous le dire.
C'est-à-dire que c'est
en Colombie, au Mexique, on agit de la même manière.
Tout à fait.
C'est-à-dire que ce qui se passe en Colombie ou au Mexique serait aujourd'hui transféré.
Oui, et votre question, elle est intéressante.
En France.
Parce qu'en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas pris la mesure de tous ces profils, parce qu'il y en a plein, qui sont des profils extrêmement dangereux, ou potentiellement extrêmement dangereux, puisqu'on le voit. Et on a une difficulté qui n'est pas actuelle sur la sécurisation à la fois des détentions, des transferments et des procédures.
Et alors, moi, je rejoins parfaitement Mme Brugère sur le fait qu'il y a de plus en plus de profils comme ça. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les prisons, vous mélangez tout et n'importe qui. Voilà. Des profils comme celui-ci, vous pouvez très bien avoir un petit jeune qui va se faire interpeller, placé en détention provisoire dans un dossier de stup de petite ampleur et qui peut se retrouver avec un profil comme celui de ce monsieur. Donc là encore, il y aura un vrai débat parce que ces profils-là, qui sont pas encore des profils particulièrement surveillés, mais des profils quand même assez sérieux, peuvent être mélangés avec d'autres.
Mais on peut se poser la question du lien avec la croissance exponentielle du trafic de stupéfiants, quand même.
Tout à fait. Alors deux choses, si vous permettez. D'abord, sur la manière dont on dit que certains sont DPS, c'est-à-dire des détenus particulièrement surveillés. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour l'administration pénitentiaire, parfois, parce que toutes ces mesures sont, d'ailleurs, depuis un arrêt du Conseil d'État, susceptibles de recours. Il faut voir qu'aujourd'hui, toutes les décisions qui avant étaient des mesures d'ordre intérieur, ce que ça veut dire qu'en fait, la pénitentiaire avait un peu la main sur la manière dont elle sécurisait ou dont elle hiérarchisait les détenus. Aujourd'hui, tout est susceptible de recours. Donc, cette capacité à dire un tel est DPS ou un tel ne l'est pas est extrêmement compliquée, y compris, pareil, pour les transferments. On va pouvoir peut-être en parler, mais si on fait venir un détenu et qu'on dit il faut tel niveau de sécurité, derrière, ça veut dire qu'on a besoin des forces de sécurité intérieures. Or, aujourd'hui, on n'a plus les moyens non plus de mobiliser, ça c'est un vrai sujet de moyens pour le coup, des forces de sécurité intérieures. Du coup, parfois, on ne met pas au bon niveau ces personnes en termes de sécurité. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit les résultats sur lesquels il va falloir réfléchir. Et sur les prisons, notre syndicat le dit depuis très longtemps, sur ces profils-là, qu'il faut identifier de manière sérieuse et rigoureuse, il est impératif de ne plus les mélanger avec d'autres détenus, c'est pareil pour les radicalisés d'ailleurs au passage, il faut construire des prisons adaptées avec des quartiers sécurisés.
Et puis, pardon, on peut les entendre à distance.
C'est un vrai débat, hein, parce que...
Oui,
vous savez, non.
Alors oui et non.
Oui et non.
Le point de vue de l'avocat, parce qu'on on passe nos vies dans les bureaux d'instruction et en audience. Le point de vue de l'avocat, c'est que c'est pas du tout la même chose lorsque vous jouez la libération d'un monsieur.
Oui.
Qui va comparaître à la maison d'arrêt de Beauvais. Oui. Qui va être dans son petit box. On va pas bien l'entendre. Ah, on vous entend pas bien, monsieur. Ah, mais moi non plus, je vous entends pas bien. On va lui poser des questions extrêmement importante sur le fond de son dossier. Il va être là à tendre l'oreille. Moi, la dernière fois, j'étais à la maison d'arrêt de Beauvais et on avait en même temps des tirs de mortier à la maison d'arrêt. C'est vrai qu'on n'est pas dans des conditions optimales pour pouvoir répondre à des questions. Surtout que ces questions-là, les réponses que vous allez donner vont vous poursuivre des années.
En l'occurrence, c'était quand même un multirécidiviste, quelqu'un que la justice connaissait.
On est plus proche de nos juges. Il faut qu'on... Les justiciables doivent être proches de leurs juges. La visioconférence, ça ne marche pas bien.
Alors moi, je dis oui et non. Oui, parce qu'il y a des actes sur lesquels on vient juste pour signer. Il n'y a pas de raison de mettre en branle autant de moyens pour ce genre d'acte. Donc là, il faut arrêter. Et oui, parce que en effet, ça peut faciliter la sécurité. Non, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens, c'est ce que vous êtes dit exactement, d'avoir des conditions. Mais c'est incroyable. En 2024, qu'on ne puisse pas faire des visios qui soient de bonne qualité. Et surtout, et c'est pas que ça, il faut avoir derrière des agents pénitentiaires qui soient là pour surveiller, et il faut sécuriser aussi les procès, c'est-à-dire qu'il faut que la visio et le PV ne se baladent pas non plus en détention. Donc en fait, ça veut dire derrière, ça semble un peu idiot ce que je dis, et de bon sens, pouvoir sécuriser la visio. On n'est pas encore au rendez-vous, pourquoi, je ne sais pas, mais vous avez raison, il y a des endroits où on devrait faire plus de visio, pas toutes, je suis d'accord avec vous, il y a des interrogatoires où on a besoin, j'allais dire, d'une confrontation, et c'est important, avec le juge, mais pas toutes, non. Je pense qu'on peut largement améliorer le système.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Leclerc, bonjour.
Fermez les yeux et concentrez-vous sur ma voix. Voici deux conseils pour un profond bien-être. Étape 1, prenez un lot de gel douche Tahiti. Étape 2, prenez...
Un deuxième lot de gel douche Tahiti.
Oh, comment vous avez deviné ?
Facile. Jusqu'au 18 mai, pendant l'opération beauté, le lot de 3 gels douche Tahiti est à moins 34%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Variété disponible, vanille, citron, coco ou grenade. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio Lourdes.
102.2.
Sud Radio.
Comment ? Qu'est-ce que j'entends ? Vous n'êtes pas encore passé chez But.
Oh. Chez But, ne manquez pas les derniers jours des journées portes ouvertes de la cuisine. C'est le moment ou jamais de profiter de remises jusqu'à 30% avec la pause offerte et des financements exceptionnels. Conditions des offres sélection cuisine en magasin et sur but.fr.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire: belle demoiselle. Presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est... Non. Ça se bouscule dans ma tête, topé à l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu? La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Inaccessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête, dopé à l'effet de plaire. C'est quand même la fête, le fantasme. Un trait sur cet aveu.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono, c'est la suite avec Jean-Jacques Bourdin et ses invités du jour.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Une France submergée par le narcotrafic, c'est le constat du rapport sénatorial qui a été publié. 6 mois d'investigation, le trafic s'infiltre partout avec une violence exacerbée, un flot qui monte inexorablement. Écrivent les auteurs de ce rapport, il y a une emprise grandissante sur des quartiers, exposant leurs habitants à une vie quotidienne insoutenable, rythmée par les incivilités, l'insécurité, la dégradation des équipements collectifs, ponctuée de règlements de comptes ultra-violents entre gangs rivaux qui débouchent parfois sur la assassinat de victimes collatérales. Il y a une sorte de contre-société qui se met en place. Nous allons en parler, mais on parlera aussi, et on parle aussi dans le cadre du narcotrafic, de la corruption. Est-ce que la prison est l'endroit, le lieu le plus corrompu de France ?
Écoutez, on en discutait il y a quelques secondes.
Oui.
Je pense que dans un état comparatif, on peut dire que la prison est un endroit qui est extrêmement corrompu. Voilà, extrêmement corrompu.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde
tout
est corrompu.
Non,
tout
s'achète. En fait, je veux dire, en la corruption, prison. C'est tout
mais
s'achète.
Mais tout s'achète. Ça veut dire que même l'administration s'achète.
J'en fais pas une généralité, mais vous avez pu avoir il y a quelques années de ça, il y a pas si longtemps, des affaires assez retentissantes. Je pense notamment au centre pénitentiaire de Fresnes.
Oui.
Je pense que vous êtes au fait, Madame Brugère.
Oui. Alors en fait, c'est toujours un sujet très délicat parce que il faut pas jeter l'opprobre sur toute une profession qui est quand même très difficile. Mais d'ailleurs récemment, je crois qu'il y a eu des fouilles qui ont été demandées. De toute façon, on a trouvé un nombre incroyable de stupes, de téléphones, tout le monde le sait. En effet, on fait rentrer beaucoup trop de choses en détention. Et comme certaines personnes ont beaucoup d'argent, puisqu'en fait le trafic continue en détention, je lisais que un détenu sur 5, je crois, fume du cannabis. Enfin bon, bref, tout continue, la vie continue en détention. Il y a un vrai sujet parce que comme il y a beaucoup d'argent, évidemment, c'est une capacité pour corrompre des personnes qui parfois ne sont pas très bien rémunérées et qui sont dans des conditions de travail très difficiles. Donc oui, c'est un sujet majeur et on parle d'une corruption à bas bruit. C'est pas obligatoirement des choses très importantes, mais c'est pointé de façon extrêmement intéressante par ce rapport, parce que c'est un non-dit, parce que justement c'est un sujet
sûr,
un peu
un
délicat. Mais il y a pas que la
comme
détention.
Comme la corruption dans les ports, des dockers.
Exactement.
Comme la corruption dans de diverses administrations.
Mais d'ailleurs,
évidemment,
le rapport va plus loin. Il parle de toute la chaîne en vrai.
Toute la chaîne peut
être corrompue, y compris mettre les avocats. Y compris, enfin je veux dire,
les magistrats,
les préfets, tout le monde peut être corrompu en vrai.
Il y a quand même des endroits qui sont plus propices à la corruption. La prison, quel est le problème ? C'est un manque exponentiel de moyens. Exponentiel. À partir du moment où vous avez un manque de moyens, comme c'est le cas pour la prison, vous achetez la paix sociale. Et il faut arrêter de se voiler la face. Je ne sais pas si ça intéresse le grand public, mais la vérité, elle est là. On achète la paix sociale avec le cannabis, on achète la paix sociale avec les téléphones portables, et ça s'arrête là, parce que sinon c'est l'insurrection. Et vous parlez avec beaucoup de professionnels pénitentiaires et ils vous répondront exactement la même chose. On le vit au quotidien, nous, la prison, partout en France. Et c'est malheureusement comme ça que ça se passe de plus en plus.
Bien. Le narcotrafic.
Oui.
Parlons. Oui, oui. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire, Béatrice?
Le narcotrafic, ce rapport est extraordinaire. Je trouve d'abord...
De vérité.
Il est extrêmement intéressant, ce rapport, par sa rigueur intellectuelle, par ses propositions, parce qu'il ne se contente pas de faire une photographie d'un état des lieux dont on a besoin, bien sûr, mais il va très loin et surtout, il a une vision globale de la problématique. Souvent, on a des rapports qui sont juste sur un petit morceau, si vous voulez, du problème. Là, il balaye tout le trafic, j'allais dire depuis l'importation jusqu'à la condamnation et post-condamnation. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, il fait des préconisations à effet immédiat. On voit que tous les ministères sont concernés. Ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, ministère de l'Intérieur sur tous les aspects de sécurisation, ministère de la Justice sur les process, les procédures, l'application du droit, l'application de la peine, etc. Donc ce rapport, il est formidable et je regrette même que ce ne soit pas les ministères qui les produisent. que ça soit le Sénat qui l'ait fait.
Oui.
Et il faut s'en inspirer. C'est une feuille de route pour justement pouvoir peut-être renverser aujourd'hui une situation qui est quand même très problématique.
Alors, les sénateurs alertent sur le risque très élevé de corruption d'agents publics et privés, on vient d'en parler, d'intermédiaires indispensables à la conduite du trafic. Parce que on parle beaucoup des consommateurs, mais parlons des trafiquants. Ces trafiquants qui sont souvent à l'étranger, qui vivent souvent à l'étranger sans être inquiétés. Toutes ces têtes de réseau du narcotrafic, particulièrement aux Émirats Arabes Unis, par exemple, considérées comme un havre de paix, sans être inquiétés. Aucunement.
Oui. Alors, j'ai envie de vous dire alléluia. Alléluia, parce qu'on nous parle de submersion depuis hier.
Oui.
Les professionnels, on est quand même au fait depuis bon nombre d'années que ça se passe comme ça. On a l'impression qu'on débarque et qu'on découvre. Bon, c'est évidemment pas le cas. Ce travail de la commission je pense en partie très bien. Oui. Très bien parce que ça met le doigt sur des choses essentielles. On s'interrogeait de savoir est-ce qu'il faut taxer les consommateurs, etc. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le spectre, comme vous dites, c'est l'international. Et ce qui est formidable dans ce rapport, c'est que pour la première fois, on met le doigt sur les coopérations judiciaires en Europe, les coopérations judiciaires avec d'autres pays à l'étranger. C'est très bien.
Et dans les dom-tom.
Et dans les bien sûr.
Et dans les
problème, dom-tom, ouais. Le problème de ce rapport, à mon sens, c'est que il va faire une généralité et il criminalise quelque part le trafic de stupes, comme on le fait à peu près avec le terrorisme. Il criminalise le trafic de stupes et par la même occasion, il réduit considérablement les droits de la défense. J'ai envie de vous dire à quoi servent les avocats après qu'on ait lu ce rapport.
Non mais d'accord, mais enfin... Le rapport établit une vérité.
Oui. Alors, attendez.
La réalité.
Vous ne la contestez pas. Non, la réalité, je ne la conteste pas.
Bon.
Je dis simplement que les moyens y sont essentiels. En revanche, réduire les droits de la défense, ça me semble, en l'état, extrêmement dangereux.
Oui, alors, j'ai pas tout à fait la même lecture, mais j'entends la critique. Moi, je trouve qu'il met le doigt sur tout ce qui paralyse la procédure et tout ce qui désarme souvent la procédure ou l'affaiblit. Donc après, ce rapport, pour moi, ça va être la possibilité d'avoir un débat intelligent, puisque le constat est posé. Les propositions, elles sont intéressantes. Il va falloir les débattre et voir comment on peut les mettre en œuvre. Donc chacun, évidemment, avec sa vision des choses. Mais on a quand même des difficultés procédurales aujourd'hui qui sont extrêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système des nullités, le système, si vous voulez, des demandes excessives, de l'abus de droit, la possibilité de ne pas pouvoir sécuriser des procédures où on a des narcotrafiquants extrêmement dangereux, posent des difficultés.
Alors vous dites,
il faut les résoudre, ces problèmes-là.
Par exemple, la commission propose l'allongement de la durée possible de la détention provisoire dans les affaires liées aux stupéfiants de 2 ans à 4 ans.
Par exemple. Mais parce qu'on n'a pas de moyens. On va vous dire, parce qu'on n'a pas de moyens, on va prendre quelqu'un qui potentiellement peut être relaxé dans un dossier de trafic de stupes ou qui peut bénéficier d'un non-lieu, mais il va passer 4 ans en prison. Je veux dire, on marche sur la tête.
Alors, La réalité, vous avez raison en partie, c'est qu'aujourd'hui, la durée moyenne d'une procédure à l'instruction est de 4,9 mois, à peu près, on va dire.
Oui.
Donc, c'est fou, c'est très très long.
Excusez-moi, je me disais.
Année.
Ouais, c'est une
révolution. On est presque à 5 ans. C'est énorme. Non, 49 mois, je vais y arriver. Donc, en fait, c'est beaucoup trop long. Et vous avez raison. On voit que pour ces procédures qui sont à l'instruction, en grande partie, en fait, la durée de la détention provisoire est trop courte. Mais c'est une question de moyens, mais c'est aussi une question de procédure.
Alors,
c'est-à-dire qu'à l'instruction, les procédures sont parfois trop longues.
Oui. Alors, et le rapport dit aussi que l'administration carcérale, l'administration pénitentiaire, ne joue pas son rôle de mise à l'écart des trafiquants. Parce que l'administration pénitentiaire est insuffisamment informée. Informée de la dangerosité, c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles ce trafiquant, je ne sais pas s'il l'est, on verra bien, l'enquête le dira, mais cet homme a été transféré sans grande sécurité. Parce que ces fourgons n'étaient pas blindés, les agents pénitentiaires sont peu armés ou mal armés. Enfin bon, on ne s'attendait pas évidemment à ce qui s'est passé.
Alors il y a eu une révolution dans les pénitentiaires, c'est quand même la création du renseignement pénitentiaire, sur lequel Christiane Taubira était d'ailleurs totalement opposée, et qu'on doit en partie à Jean-Jacques Urvoas.
Oui.
Ce renseignement pénitentiaire, on voit très bien qu'il est essentiel, justement, pour avoir la bonne information. Mais la question aujourd'hui, c'est le partage de l'information. C'est-à-dire que l'information, parfois, elle existe, mais elle n'est pas partagée au bon endroit. Donc oui, il faut continuer à augmenter la capacité du renseignement en général et du renseignement pénitentiaire en particulier.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Alors nous, on voudrait une cuisine
avec des tiroirs qui font
chut, mais pas trop quand même.
Un bruit silencieux quoi.
Voilà.
Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Et merci à tous ceux qui ont élu SoCook meilleure enseigne de cuisine 2024 pour sa qualité de service.
Sud Radio Agen.
102.3.
Sud Radio.
Respire. Tu ressens cette liberté? Viens vivre l'incroyable. Ça y est, on y est. Et regarde, je crois qu'on est suivi. Pas besoin de photos. Ça ne s'oublie pas, la lumière de la Méditerranée. J'aimerais vivre ici. L'expérience la plus immersive, c'est la réalité. Comunidad Valenciana. Méditerranée en live.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai. Vrai Sud Radio.
Parlons vrai.
Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme les toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps, dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie, je crois bien que je l'ai vue. Des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout de tout, de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de tout, de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien. Des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Bonne soirée avec nous, Sud Radio, les essentiels en 60 minutes chrono. On retrouve immédiatement André Bercoff.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Bercoff, vous recevez Jean-Loup Isambert qui vient nous voir pour son livre Bilan Noir, l'Union Européenne contre la France, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Jean-Loup Isambert.
Bonjour Sud Radio, bonjour André.
Bonjour.
Bonjour à l'équipe.
Bonjour. De Sud Radio, aux auditeurs de Sud Radio, et merci de votre invitation, André, pour évoquer un sujet dont aucun candidat à ces élections européennes ne veut parler.
Eh bien justement, nous on est là avec vous pour en parler, Jean-Louis Zembert. Ce bilan noir, cette Union européenne contre la France, vous avez écrit un livre pamphlet, polémique, mais bourré de faits, bourré d'informations, et je dois dire que c'est un livre tout à fait intéressant et qu'il faut lire, quelles que soient vos convictions, quelquefois la personne ou la liste pour laquelle vous allez voter le 9 juin, si vous votez, eh bien, lisez ce livre. Et vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, Jean-Louis Zembert, mais on le sait, hein, vous êtes un journaliste indépendant, vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez écrit beaucoup de choses sur le crack des banques, faut-il brûler l'ONU, sur l'État français complice de Claude criminel, tous vaccinés, tous en danger, les destructeurs. Et voici l'Union européenne contre la France. Alors, vous dites, et je commence par la fin, mais vous dites, au fond, vous avez utilisé votre dernier chapitre, l'Union européenne, c'est la guerre. Et vous commencez par dire, au fond, nous sommes en guerre, nous, depuis 1945, Dieu sait si on l'a été entre 40 et 45, et vous dites, cette Union européenne, vous racontez tout l'historique, etc. Mais la base, vous dites, au fond, l'Union européenne, son adversaire principal, c'est les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous n'êtes pas un peu manichéen de ce point de vue-là, Jean-Louis Zembert ?
Écoutez, je me suis intéressé, il faut dire que ce livre est la première partie d'une enquête que j'ai faite sur l'Union européenne.
Oui.
Et l'autre partie va sortir aux éditions Culture et Racines au mois de septembre, début octobre.
D'accord.
Et qui s'intéresse justement à la manière dont ont été conçues, dès le départ, les premières organisations qui sont dédiées à la supranationalité,
oui,
et qui vont avoir en charge de mettre en place ce qui ne s'appelle pas encore l'Union européenne, mais un État européen, une Europe supranationale.
Dont on parle beaucoup aujourd'hui, effectivement, dont on voit un certain nombre de déclarations qui en annoncent les prémices. Mais je voudrais que vous me disiez là, pour vous, alors l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, on va reprendre votre titre. Pourquoi vous dites qu'elle est contre la France et en quoi est-elle, selon vous, contre la France ?
Elle est contre la France d'abord dans sa conception, dans son organisation. On voit bien que ce Parlement européen n'a aucun pouvoir. Il est là pour déplacer les virgules des textes qui sont concoctés par la Commission européenne en accord et à la demande du Conseil européen qui réunit les chefs d'État et les premiers ministres. Et c'est ce Parlement européen, j'entendais vos invités avant, je veux dire, il n'a aucun pouvoir pour changer les choses.
Pardon Jean-Louis Zembert, je vous interromps. Ce que vous dites à tous les gens qui se présentent aujourd'hui, on est en pleine déclaration, les listes, etc. Vous dites, ok, vous dites ça, mais ça ne sert à rien. Très franchement, est-ce que pour vous, ces élections qui vont se passer ne peuvent rien changer à la composition du Parlement qui peut-être à ce moment-là peut peser ou pas ?
Rien du tout.
Rien
Je vais
du
vous
tout.
Dire pourquoi.
Oui.
Pourquoi ? Parce que tout simplement, tout a été conçu dès le départ pour que le Parlement européen ait une majorité qui soit derrière tout ça. Vous avez des grandes puissances financières qui sont à l'œuvre. Et le Parlement européen a été conçu pour donner un semblant de légitimité, de démocratie, à des décisions qui sont prises entre les dirigeants de la Commission européenne et les dirigeants du Conseil européen.
D'accord.
Qui ne sont pas élus,
il faut le rappeler.
Qui ne sont pas élus.
Mais.
Et sur lesquels les gens n'ont aucun pouvoir, je veux dire. On vote tous les 5 ans, presque par habitude, pour des députés qui vont dans un Parlement européen, dont on n'entend plus parler après, qui ne rendent pas compte de leur activité au Parlement européen et qui se représentent après avec un discours légèrement différent sur le thème, vous verrez, l'Europe sera encore meilleure demain si vous nous élisez. Mais quand on fait le bilan, parce que aucun de ces candidats ne fait le bilan de cette Union européenne.
Alors faisons-le, faites-le, oui, vous l'avez fait, faites-le.
Alors, bon, le bilan, on le voit, ça commence d'abord par la démocratie. On pourrait prendre de multiples exemples. On a un bilan qui a été un exemple qui est très fort, je veux dire, qui donne une idée de la manière dont fonctionne ce Parlement européen. On l'a eu avec l'achat des vaccins ARN messagers lors de la crise Covid-19, où on voit la présidente de la Commission européenne qui va traiter directement par-dessus le propre organisme que l'Union européenne a mis en place, un comité de pilotage pour l'achat des vaccins auprès des laboratoires pharmaceutiques. La présidente, elle passe par-dessus ce comité de pilotage. Elle va traiter avec des dirigeants de Pfizer. Ça représente quand même, ce sont des milliards d'euros qui sont engagés.
70 milliards, oui, en tout. Oui.
Voilà. La question, c'est que pendant ces transactions, elle continue par des échanges de SMS à négocier avec les dirigeants de Pfizer sans rencontre ni au comité de pilotage ni au Parlement européen qui est censé quand même contrôler l'évolution des choses.
Bien sûr.
De ces échanges. Donc il y a des institutions qui s'en préoccupent. Il y a également des députés du Parlement européen qui disent « Mais Madame la Présidente de la Commission européenne, vous négociez avec une société privée alors que nous avons un comité de pilotage qui est en place, vous négociez par-dessus ce comité de pilotage, qu'avez-vous négocié exactement avec cette société, avec la société Pfizer ?» Et donc, il y a tout un processus qui se met en branle et tout va être réglé très rapidement puisqu'il va y avoir une réunion. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'en ai rendu compte dans le livre, l'enquête que j'ai faite précédemment qui s'appelait « Tous vaccinés, tous en danger » où je parle de la corruption autour de ces questions justement. Et où vous allez avoir, le 16 février 2023, les dirigeants de tous les groupes politiques du Parlement européen qui vont se réunir avec le président du Parlement européen et qui vont tous refuser la demande formulée par les députés du Parlement européen. C'est-à-dire, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, n'a pas à s'expliquer sur ces transactions privées qu'elle a faites.
Ouais. Donc, effectivement...
Ça, c'est un aspect.
Tout à fait. On va continuer à parler du bilan, justement, mais c'est un aspect très illustrateur de ce qui se passe. Juste après cette petite pause, Jean-Louis Zembert, l'Union européenne contre la France. On va continuer d'en parler et Dieu sait s'il y a des choses à dire.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Je travaille en maison d'arrêt.
Le cannabis circule.
Ah, il circule, oui. Et il circule dans des endroits où il ne devrait pas circuler, notamment chez les mineurs.
Comment entre le cannabis ?
Par les parloirs.
Mais vous, les familles sont fouillées pourtant, non ?
Non, elles ne sont pas fouillées. Donc forcément, elles passent sous le portique, ça ne sonne pas. Mais sinon, on a interdiction formelle de les fouiller.
Sud Radio. Parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Oh là là. Alors vous, mes petits gars, vous êtes vraiment trop mignons. La peau tendre et veloutée, la mine estivale et... Oh, et vous sentez sacrément bon en plus. Je crois que je vais vous adopter.
Monsieur, vous êtes à l'antenne.
Oh, désolé, j'étais en train de choisir des abricots.
Ah, je comprends. C'est vrai qu'ils font envie nos délicieux abricots à 2,89€ le kilo, du 14 au 18 mai chez Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre A, origine Espagne, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio Sarlat.
107.1.
Sud Radio. Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir. Et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir. J'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là. Pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, pas donné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains.
J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde, peut-être pour la dernière fois. Et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Bonne soirée avec nous sur Sud Radio, les essentiels en 60 minutes chrono. On va retrouver tout de suite André Bercoff.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Vous savez, Jean-Louis Zambert, je lis juste à l'intention des auditeurs, je lis vos titres de chapitres. Alors vraiment, parce qu'on pourrait y passer 5 heures, mais déjà c'est très parlant. Des eurodéputés figuratifs, majorité de complaisance, le droit national n'existe plus, la langue française sabrée, la démocratie bafouée, l'État au service de la grande finance, une corruption permanente, la santé, on vient d'en parler, le logement, l'industrie, la France ne cesse de se désindustrialiser, commerce et agriculture, pêche, emploi, la grande régression, qualité de vie, et vous finissez par l'Union européenne, c'est la guerre. Alors, c'est vraiment la guerre, Jean-Louis Zambert?
Oui, c'est la guerre. Déjà, c'est la guerre sous toutes ses formes. On a la guerre économique, la guerre financière qui est menée par les États-Unis contre l'Europe en général, pas seulement contre la Russie, mais également contre les pays de l'Union européenne, de différentes manières. On l'a vu avec.
Alors justement, donnez des exemples, Jean-Louis Zambert. Vous dites c'est
exemple,
la guerre.
Oui. L'affaire Alstom, c'est un exemple qui est fort, oui. Où l'on voit quand même pendant le président Macron a travaillé dès 2012-2013 sur ce dossier. L'affaire a été réglée relativement rapidement et on voit quand même Emmanuel Macron n'a pas hésité à mentir devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, puisque en novembre 2014, il déclare que l'opération au profit de General Electric a été réalisée grâce à un long travail de concertation avec les dirigeants de l'entreprise, les représentants de l'État, les syndicats, etc. etc. Et lorsqu'il est entendu par la commission d'enquête, je crois que c'était au mois de mars suivant, 2015.
Il était ministre de l'économie déjà, je crois.
Exactement, c'est oui, ça. Tout à fait. Après Arnaud Montebourg.
Oui.
Et où il déclare après que le gouvernement s'est retrouvé devant un projet qui était complètement ficelé et pour lequel il ne pouvait rien faire. Mmh. Ce qui est faux, puisqu'il y avait un décret qui existait et qui permettait justement de s'opposer à des investissements étrangers qui auraient été contre les intérêts français.
D'accord. Mais alors, justement, et pourquoi, alors, à votre avis, les États-Unis, l'intérêt des États-Unis à faire la guerre, vous le dites, comme ça, selon vos propres termes, à l'Europe, c'est quoi? Puisque l'Europe, c'est un allié, et l'Europe n'a jamais été un ennemi des États-Unis. Quel est l'intérêt des États-Unis, selon vous?
L'intérêt des États-Unis, c'est d'assurer leur hégémonie qui est en déclin sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale. Et pour cela, ils procèdent de différentes manières. Et il n'y a pas que la guerre militaire. On a vu ce qui s'est passé quand même en République fédérative de Yougoslavie, comment la République yougoslave a été détruite, éclatée en une succession d'États, et comment se sont implantées après des sociétés transnationales pour s'accaparer les secteurs les plus juteux, les plus rentables de l'économie. Ouais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine aussi, sur le plan militaire. Où l'on voit, et ça a quand même un aspect quand même scandaleux, où l'on voit le président français avec l'Union européenne, envoyer des milliards d'euros à l'Ukraine, envoyer des armements à l'Ukraine, mais de manière massive. Ouais. Et quand dans le même temps, depuis 2016, vous avez la banque Rothschild et compagnie, qui est une des banques d'affaires du groupe Rothschild, qui réunit des investisseurs pour se préparer à se partager l'économie ukrainienne. Mmh. C'est-à-dire que Et vous avez aujourd'hui, alors c'est intéressant parce que pour se partager l'économie ukrainienne, il faut que l'Ukraine ne puisse plus rembourser l'argent qui lui a été prêté. Ouais. Parce que ce ne sont pas des dons qui ont été faits à Kiev.
Oui, ce sont des prêts, oui, bien sûr.
Et vous avez aujourd'hui deux des grands prêteurs, notamment l'un des plus importants qui est BlackRock, qui ne devait pas réclamer le remboursement des prêts qu'il avait fait. Il s'était engagé à ne pas rembourser avant 2027-2029. Ouais. Il y a eu un article, du reste, qui est paru sur l'Observateur Continental et qui reprend un article qui est paru dans Wall Street Journal, ouais, où le journaliste explique clairement que BlackRock envisage au besoin même de mettre en place un pool d'avocats pour réclamer à l'Ukraine dès la fin 2024, dès début 2025, le remboursement de l'argent qui a été prêté à l'Ukraine. Mais ça, c'est pour amener l'Ukraine à un défaut de paiement, de manière à ce que les investisseurs qui attendent dans l'ombre avec la banque Rothschild puissent s'accaparer les secteurs rentables de l'économie. Ils ont déjà commencé, notamment dans le domaine agricole, à s'accaparer plus de 45% des bonnes terres agricoles de l'Ukraine.
Qui est un grenier à blé, et le grenier à blé de l'Europe, voilà, notamment, oui.
Cargill, Monsanto, Dupont de Nemours, etc., qui sont déjà en place.
Donc, vous dites, effectivement, là, la guerre, pendant la guerre, le business continue. On en a parlé, d'ailleurs, avec ici, entre l'Amérique et la Russie, et les banques russes qui continuent à commercer avec les États-Unis dans le domaine énergétique. Mais pour revenir à ça, et l'Europe, alors, pourquoi l'Europe, selon vous, et vous en parlez longuement dans votre livre, Jean-Louis Zambert, l'Europe ne se défend pas ou ne veut pas se défendre, ou c'est une fausse Europe? Qu'est-ce qui fait cette attitude, je dirais, à la fois passive et au sens de maison de passe ou au sens de courant d'air de l'Europe, alors que c'est quand même...
Ça vient du fait de la manière dont a été conçue au départ l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne a été conçue par des gens qui sont présentés comme des pères fondateurs, mais ça, c'est pour dissimuler l'ingérence des États-Unis dans les affaires des pays de l'Union européenne. Et ces pères fondateurs sont présentés dans la communication de l'Union européenne comme des architectes, des grands visionnaires, etc., etc. En réalité, quand je me suis intéressé à la biographie de Jean Monnet, d'Antoine Pinay, de Spaak, l'ancien premier ministre belge, oui, de Robert Schuman, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, si vous voulez, c'est que quand on lit la documentation de l'Union européenne sur ces personnes qui sont présentées comme les pères fondateurs de l'Union européenne, oui, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place les premières structures qui sont dédiées à la supranationalité. Quand vous reprenez les discours de Jean Monnet de l'époque et que vous regardez le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, vous retrouvez pratiquement les mêmes termes, avec le même objectif, c'est-à-dire mettre en place une Europe où les souverainetés nationales sont abolies, un État européen, supranational, qui permet aux États-Unis d'influencer directement un pouvoir qui est celui de l'Union européenne, très centralisé. Parce que l'État européen qui est actuellement en préparation, et c'est quelque chose de très grave qui est en train de se préparer, c'est un État où vous allez avoir une Commission européenne qui va être transformée en gouvernement supranational, ouais, avec des commissaires européens qui seront des ministres. C'est-à-dire que le véritable pouvoir sera encore plus concentré. Le phénomène que nous connaissons actuellement de la symbiose entre le Conseil européen qui réunit chef d'État, premier ministre, et la Commission européenne et hauts fonctionnaires qui sont eux-mêmes nommés par les États, sera encore plus forte et plus concentrée. Et quand vous vous intéressez à la biographie de ces gens-là, vous vous apercevez par exemple que tous ont eu des liens, mais très étroits, pendant la guerre, et certains même comme Jean Monnet, dès les années 1935-1938, ouais, avec lui, c'était aux États-Unis, Schuman était avec d'autres. J'ai passé en revue leur vie pendant ces années noires, parce que quand vous regardez la documentation de l'Union européenne, vous vous apercevez que de 1936 à 1945, leur parcours est résumé, tiens, en 4 ou 5 lignes.
Et ça m'a interpellé. Tous,
je me dis,
tous.
Comment ? Ah oui, mais voilà des gens qu'on présente comme des grands résistants, comme luttant contre le fascisme, etc. Et quand on se met à... Mais je me dis... Quand même, quand vous avez des faits de guerre importants
oui,
comme ça...
Oui, de 35 à 45, oui, c'est pas mal, oui. 10 ans.
On va pas se contenter de quelques lignes. Ouais. Et quand je m'intéresse, par exemple, au parcours de Jean Monnet aux États-Unis, parce qu'il est présenté comme partant aux États-Unis, où il devient banquier. Bon, on ne devient pas banquier comme ça du jour au lendemain quand on n'a pas de fortune personnelle. Et en réalité, je retrouve Jean Monnet qui va devenir, c'est ainsi qu'il le nomme, l'ami intime de John Foster Dulles, qui sera plus tard...
Secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, voilà, John Foster Dulles, oui.
Voilà, et dont le frère sera le premier directeur civil de la CIA. Et John Foster Dulles est un souteneur du parti nazi en 1934, ouvertement. Il prône ouvertement l'économie, la paix négociée avec le Reich allemand. Et alors, j'ai continué de travailler, j'ai trouvé dans des archives de sociétés financières et de banques et des travaux d'historiens, des documents qui sont quand même... assez révélateur, où l'on voit par exemple que Jean Monnet a été rétribué depuis 1936 jusqu'à 1945, d'abord par le plus grand groupe chimique de Belgique, Solvay, qui a eu ensuite une administration nazie, parce que Solvay était un partenaire de Farban, et quand j'ai continué à gratter là-dessus, mais je m'aperçois qu'en réalité, Jean Monnet est rétribué par l'administration nazie qui dirige parce que c'est un groupe stratégique.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono à retrouver également en podcast sur sudradio.fr ou sur l'application Sud Radio. Passez une bonne soirée avec tout de suite les clés d'une vie et Jacques Pessis.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Alors nous, on voudrait une cuisine
avec des tiroirs qui font
chut, mais pas trop quand même.
Un bruit silencieux quoi.
Voilà.
Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Et merci à tous ceux qui ont élu SoCook meilleure enseigne de cuisine 2024 pour sa qualité de service.
Sud Radio Cagnes-sur-Mer.
97.9.
Sud Radio. Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires. Tes petites piquettes qui cognent et sentent bon le terroir. Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta campagne et tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, tu m'accroches à tes prunelles. Tout le 14 juillet, tu brilles de mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. On ne fait jamais le tour de France. J'aime tes petites places, Ricard et puis pétanque. M'asseoir à tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la fête, tes rêves parlent fort. T'as tellement de facettes et tellement de décors. Chez toi on ne s'ennuie jamais, t'as ton petit caractère. Quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air. Unis on est plus fort, même quand on se fait la guerre. On s'engage et alors on reste solidaire. Chaque fois je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne.
aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. On ne fait jamais le tour de France. Y a toujours un bout de toi qu'on adore, qu'on préfère, où on se sent chez soi. Petit bout de terre, c'est bien joli la Bretagne, et c'est bien bon le Finistère. Et quand l'Alsace te gagne, tu reviens pas en arrière. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire, ma France, tu m'as tout appris. Jamais le tour de France, pa pa la pa, pa pa la pa. On ne fait jamais le tour de France, pa pa la pa, pa pa la pa.
Sud Radio.
Sud Radio.
Sud.
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 Radio.
Sur les bords.